Tout d'abord, je voudrais vous dire que je viens ici en représentant l'inspection générale de sciences de la vie et de la terre et d'histoire-géographie. J'ai eu un contact hier avec mon collègue Bruno Mélina, qui s'excuse de ne pas pouvoir venir et qui le regrette vraiment, parce que lui et moi, nous sommes tout à fait convaincus de l'importance, j'allais dire l'intérêt, non, l'importance de cette réflexion sur les systèmes d'information géographique, plus largement sur la géomatique, n'est-ce pas, Sylvain? En fait, il est vraiment retenu par un impératif, de même que mon collègue Gérard Bonnour, que vous connaissez peut-être pour ses travaux sur l'éducation à l'environnement vers un développement durable, n'est-ce pas, Naoum, c'est bien ça? et qui avait l'intention de suivre plus particulièrement tout ce qui concerne justement les systèmes d'information géographique. Bon, cette. Ce petit rappel et ces excuses pour vous dire que, en fait, nous sommes tous avec vous pour aujourd'hui, que je vais essayer de rester le plus longtemps possible pour pouvoir suivre les débats, parce que j'en ai absolument besoin pour continuer, moi aussi, de mon côté, à pousser. Alors, c'est une des premières choses que je voudrais vous dire. Vous voyez, je l'ai indiqué sur la première page de mon PowerPoint, une urgente nécessité. J'ai rajouté un petit, ça c'est une innovation personnelle. Comme je travaille beaucoup sur les TIS, que je navigue en permanence entre TIS, TIC, que les anglo-saxons se limitent à ça, alors que nous, nous parlons de TIS avec un E, E comme enseignement. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les SIG dans l'enseignement. Donc, ton introduction tout à l'heure, ce que tu disais du programme, c'est exactement ce que je veux voir. Comment les dispositifs qui sont grand public ou qui sont professionnels vont pouvoir passer dans la réalité de l'usage dans nos classes. Alors, si on s'y intéresse du point de vue institutionnel, c'est quand même relativement récent, il faut l'avouer. Surtout pour moi, surtout pour les sciences de la vie et de la Terre, qui se sont raccrochées, en quelque sorte, au wagon qui avait déjà été initié par les collègues d'histoire-géographie. Mais on avait cette préoccupation depuis déjà quand même pas mal de temps. Et ce besoin a été très clairement exprimé par ce que l'on appelle le SCHEN, c'est-à-dire le schéma directeur de l'édition numérique, qui a été une sorte d'enquête, une enquête réalisée dans toutes les académies, dans les académies, une enquête réalisée dans les académies par niveau, pour essayer d'identifier quelles sont les ressources numériques qui existent et quelles sont celles qui manquent. Et de notre côté, en sciences de la vie et de la Terre, le besoin d'outils numériques permettant de faire revenir dans nos pratiques l'usage des cartes, et en particulier des cartes géologiques. Quand j'ai commencé à enseigner, je faisais carrément des séances de TP sur des cartes topographiques. Ça a complètement disparu. Ça a complètement disparu. Pour des raisons diverses, j'ai pas le temps de m'étendre dessus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous sommes nombreux à s'intéresser à la géologie et à vouloir que ça revienne. Alors, le SCHEN a fait remarquer ce déficit. Ça s'est traduit très rapidement par une convention avec le BRGM sur un projet qui, d'ailleurs, avait été réalisé en collaboration entre le BRGM et l'INRP. Et ça a débouché. Ça a débouché sur une convention signée avec l'État qui a donc mis une somme non négligeable dans la balance pour que soit réalisée une transposition de ce que le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, ce dont il dispose déjà et ce qu'il met à disposition du grand public en ligne sous l'appellation Infoterre, arriver à en faire quelque chose qui soit utilisable dans les classes par les professeurs et par les élèves. Voilà, le E, c'est enseignement, mais on pourrait dire aussi, dans mon esprit, clairement élève. Alors, cette convention signée, si on rajoute que de notre côté, les collègues d'histoire-géographie sont en contact avec l'IGN, dont tu m'as dit, Sylvain, qu'il était représenté ici, depuis longtemps, parce que les ressources de l'IGN sont des ressources dont on a besoin au quotidien également, dans la pédagogie de la géographie, enfin de la description des objets géographiques et géologiques. La SDTIS, c'est la sous-direction chargée des TIS au ministère. Supporte, soutient, bon, fait fonctionner depuis un moment un groupe de réflexion, parallèle au vôtre d'ailleurs, qui lui aussi travaille sur l'exploration de tout ce qui existe et de tout ce que l'on peut faire avec dans le domaine des systèmes d'information géographique. J'appelle de mes voeux d'ailleurs une collaboration étroite entre ces deux structures. C'est pas forcément facile, mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et puis, dernier acte de cette prise de conscience institutionnelle, vous avez tous vu, d'ailleurs, la liste a fait circuler l'information, la SDTIS dont je parlais à l'instant, le Bureau des ressources, a diffusé un appel d'offres que vous avez tous vu, et qui, d'ailleurs, pour lequel il faudrait répondre assez rapidement, et qui, à mon avis, est susceptible d'intéresser l'INRP. J'en suis convaincu, on pourra en réfléchir, on pourra en reparler en aparté à l'occasion. Pourquoi en fait? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est évident, quand on commence à regarder ce qui se passe actuellement dans ce domaine-là, il y a un foisonnement possible qui commence à devenir à la limite difficile à déchiffrer. Et les mêmes personnes qui ont franchi le pas pour la convention avec le BRGM, et qui, donc, ont souhaité que le ministère s'engage dans le soutien à accorder à des recherches de ce type sur des SIG d'ordre pédagogique, d'intérêt pédagogique, sont en train de se demander vers quelle solution il serait raisonnable de s'orienter. Et quand la convention a été signée, pour tout vous dire, Google Earth n'était pas encore vraiment connu. L'apparition de tous ces dispositifs pose question. Et c'est pour ça que le ministère a lancé cet appel d'offres. Enfin, c'est une des raisons. Essayez d'y voir clair. Ça rejoint très clairement les objectifs que vous étiez fixés tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, pourquoi on s'en préoccupe? Des objectifs de société. Une première chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, c'est que les systèmes d'information géographique, c'est une réflexion sur les territoires. Et cette réflexion sur les territoires, en sciences de la vie et de la terre, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est quelque chose qui est très solidement ancré dans l'animalité de l'homme. C'est, quand je disais, une préoccupation ancestrale, vous pouvez remonter très loin chez les ancêtres. Et pour identifier le territoire, il y a des quantités de façons. Je ne rentrerai pas sur la façon dont les hippopotames font. Mais l'homme, lui, il a ses dispositifs. Et en particulier, cette réflexion sur les territoires est à l'origine de beaucoup de soucis, c'est une préoccupation quotidienne de la plupart des responsables politiques. Responsable politique, ça peut même aller jusqu'à l'échelle du foyer. Et personnellement, mon voisin, enfin passons. Voilà. Et puis vous dire aussi que la représentation graphique, c'est une façon de s'approprier l'espace. On se l'approprie au sens où je disais tout à l'heure, on en est propriétaire, mais on se l'approprie aussi en le comprenant. S'approprier l'espace, c'est réussir à en définir les objets et en définir les interrelations. Vous voyez, c'est ce que je mets en dessous. Comprendre l'espace, il y a des relations topologiques, savoir où sont posés les endroits, où sont posés les objets, comment ils sont situés les uns par rapport aux autres. On définit d'ailleurs des points cardinaux pour pouvoir faire ce carroyage, de la même manière que les mathématiciens mettent en place des systèmes de repères orthonormés. Vous avez à repérer les objets. Les objets, il faut comprendre également leur emboîtement d'échelle. Il faut comprendre leurs interactions. Quel objet agit sur quel autre, s'apercevoir en fait très rapidement que l'homme est dans un territoire, mais un territoire qui évolue au cours du temps. Et il évolue au cours du temps parce que des quantités de force agissent sur l'ensemble des objets et les objets agissent les uns sur les autres. Alors, c'est ce que j'appelle dans la diapo d'après les systèmes complexes à plus de 4 dimensions. Pour comprendre ces systèmes, il faut une aide. L'approche intuitive de l'environnement est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde et qui n'est pas à la portée de l'élève, le premier élève venu. Il y a une difficulté que j'appelle la contrainte de Gutenberg. J'ai trouvé ça, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Ce que j'appelle la contrainte de Gutenberg, c'est parce que, bon, en ce moment je travaille en Alsace, je rencontre Gutenberg à tous les coins de rue, et comme je m'occupe également des TIS, je me suis plusieurs fois rendu compte que la révolution que nous vivons actuellement, qui est la révolution du XXIe siècle, et qui n'est pas du tout, comme je le pensais quand j'étais gamin, le voyage sur les planètes voisines, dans l'espace, mais c'est la révolution numérique. Et en ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'elle apporte, cette révolution numérique ? Un pas conceptuel gigantesque dans la communication. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à faire des cartes? Enfin, c'est ma perception. J'espère que les historiens, que les géographes ne seront pas choqués par ce que je vais dire. Une carte, c'est quelque chose de plat. Moi, je suis géologue. Une carte géologique plate, ça m'a toujours posé problème. À moi, pas trop, parce qu'il se trouve que j'ai un don de vision dans l'espace qui a fait que je fais de la géologie, d'ailleurs. Sinon, j'en aurais pas fait. Mais cette vision dans l'espace, on le sait, beaucoup d'élèves ne l'ont pas spontanément. Et la grosse difficulté pour travailler sur les cartes géologiques, c'est de leur faire comprendre que ce que l'on a représenté sur un objet plat, pour des raisons de commodité, et uniquement de commodité, la reprographie, c'est des machines à rouleau. C'est plat. Voilà. Donc il faut qu'on mette notre environnement, qui lui est au moins en trois dimensions, j'ai dit quatre mais plus, il faut le mettre en deux dimensions. Ça demande une gymnastique intellectuelle gigantesque et des outils mathématiques pas simples, qui font que d'ailleurs, enfin bon, vous avez peut-être tous plus ou moins travaillé sur les différents modes de conversion, sur les différents modes de projection. Alors ça, c'est ce qui a fait que nos cartes ont disparu de nos pratiques pédagogiques. Parce que c'est considéré comme beaucoup trop compliqué pour être à la portée de l'élève moyen du second degré. Et c'est extrêmement fâcheux. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a besoin, pour comprendre, de se représenter les objets. Alors, d'autre part, comme si on est en deux dimensions, ben deux dimensions, ça ne permet pas de mettre beaucoup de choses. Et une carte géologique, quand on la regarde, c'est une accumulation invraisemblable et gigantesque d'informations superposées. C'est quelque chose d'une complexité phénoménale. Dans une conférence que j'avais entendue, Sylvain, informateur, je me rappelle que tu disais que les SIG, ils ont un défaut, c'est qu'ils fragmentent la connaissance. Bon, certes, c'est vrai, 70 couches, il me semble que tu disais, pour l'expérience que vous aviez conduite dans la région. 70 couches, c'est vrai, mais l'empilement de cartes topographiques, de cartes thématiques, de cartes géologiques, c'est pas mieux. Je crois au contraire que là, avec les SIG, on a la possibilité enfin de remettre sur un même écran, et avec une facilité de navigation nouvelle, tous ces objets qui avant étaient forcément dispersés, déposés sur une carte, et tous ceux qui ont travaillé sur des cartes thématiques qu'ils ont essayé de mettre en relation, savent que non seulement on est rapidement limité par la complexité de l'objet, mais on est même également limité par l'espace de travail dont on va disposer. Pour faire de la cartographie, il faut des tables gigantesques. Alors, bon, si vous rajoutez à ça que maintenant on attend des décideurs une réactivité qu'on attend d'ailleurs en ce moment, hélas, de pratiquement chacun de nous, on nous contacte pour avoir une réponse pour avant-hier. Et c'est tout comme ça. Et ça ne va pas s'améliorer. Donc les décideurs, ils ont besoin qu'on les aide. Mais non seulement ils ont besoin qu'on les aide à comprendre ce sur quoi ils vont être amenés à décider, mais ils ont besoin aussi de faire comprendre à leurs administrés pourquoi ils ont décidé comme ça. Et cet enjeu de société fait que, automatiquement, le besoin créant, la demande créant, je ne vais pas faire du finalisme, j'éradique ce que j'ai failli dire, mais en tout cas, vous voyez le principe, il y a une demande, et donc automatiquement, des gens vont y répondre, et on fournit. Et on fournit non seulement aux professionnels, mais aussi au grand public. Alors ceci nous amène à ce que j'appelle des enjeux de formation. Les enjeux de formation. Si nous souhaitons que nos citoyens futurs, c'est-à-dire nos élèves, s'entendent et se fassent entendre, s'entendent entre eux, conviennent des politiques cohérentes, fassent comprendre à leurs élus ce qu'ils veulent faire, que les élus, eux, comprennent comment ils ont décidé. Bref, il faut que tout le monde ait un minimum de compréhension, de connaissance de comment fonctionne cette réflexion sur les objets géographiques. Et une première idée sur laquelle je voulais revenir, c'est que les systèmes d'information géographique, ça nous permet de visualiser les objets. C'est déjà quelque chose de fondamental. On voit. Et rien qu'en voyant, on franchit déjà un pas dans la compréhension. Parce que quand on voit, il ne faut pas croire que la vision, c'est un appareil photographique. Les naturalistes, les spécialistes des sciences de la vie, savent très bien que derrière, il y a tout un traitement. Donc les objets qu'on observe sont mis en relation. Sinon, on est incapable de leur donner du sens. Donc rien que de voir, c'est déjà raisonner. Alors simplement, je vais un petit peu plus loin. Dans ces cas-là, j'utilise un autre mot et qui nous est cher à nous, spécialistes des sciences expérimentales, c'est observer. Voir, observer. Et on passe automatiquement à l'observation dès qu'on a une grille qui permet de comprendre les relations entre les objets qu'on voit. Alors, voir le monde en 3D. Vous allumez maintenant le journal télévisé. On ne vous montre pas une planisphère. Un planisphère. Qu'est-ce qu'on vous montre ? On vous montre une image du type de celle que vous allez voir sur Google Earth. On décide de vous parler d'Al-Qaïda. On va vous faire un zoom, comme vous pourriez le faire vous-même avec Google Earth, sur la région qui est concernée. Et on vous fait tourner sous vos yeux un globe. Et je vous fiche mon billet que si on faisait une enquête maintenant sur les représentations mentales de la population et des élèves, moi, j'essaye de revenir un peu dans mon passé. La Terre, je me la représentais pas aussi ronde que je me la représente maintenant. Maintenant, la Terre, pour moi, c'est un globe. Voilà. Et c'est un globe, c'est banal. Et je commence à me dire que pour la plupart de nos élèves, l'image de la Terre, c'est plus un ballon que la carte à plat sur laquelle on les aurait fait travailler. Alors ça, c'est parce que les outils dont on dispose pour médiatiser les représentations du monde sont complètement nouveaux, sont complètement changés. Je crois que ça vaudrait la peine d'être regardé, ça. Alors si vous rajoutez que les élèves vont pouvoir manipuler cette rotondité de la Terre à loisir, chez eux, tranquillement, avec des outils d'une puissance extraordinaire, comme Google Earth, vous voyez qu'une partie de l'apprentissage qui nous posait difficulté avant, maintenant, à la limite, ça va peut-être devenir une représentation de base. La Terre est ronde. Et on peut tourner autour. Et pour aller d'un endroit à l'autre, il faut tourner autour. Google Earth et Géoportail. Je m'arrête à 30 secondes là-dessus. Google Earth, en SVT, on est en train d'en généraliser l'utilisation. Ça nous permet de montrer très facilement aux élèves des images de régions du globe à l'échelle où nous travaillons dans nos programmes, puisque nous travaillons à l'échelle des grandes plaques, à l'échelle des grandes structures et de leurs frontières, à l'échelle des grands phénomènes qui se passent sur ces frontières. Et quand on descend le plus bas, finalement, on va travailler, alors, petite échelle, grande échelle. Disons qu'on va travailler à l'échelle du 250 millième pour comprendre la genèse et la structure des Alpes. En revanche, à d'autres niveaux, en première S par exemple, on a des sorties sur le terrain organisées. Et ces sorties sur le terrain, il nous faut des éléments qui sont beaucoup plus proches, donc beaucoup plus fins. Et c'est là qu'on trouve les limites de Google Earth. En revanche, Géoportail, j'ai vu une démonstration de Géoportail, ça donne l'impression d'être absolument fabuleux. Il va y avoir une définition, je crois, qui est de l'ordre du 52-50 cm, et avec une définition du modèle numérique de terrain qui est bien supérieure à celle qu'on peut avoir sur Google Earth. Donc, les deux outils combinés, parce que Géoportail, il a un défaut pour nous, c'est qu'il est strictement hexagonal. Il y aura les DOM, mais bon... ça ne permet pas de se faire une représentation du monde. Alors, la transparence, une séduction... Oui, les MNT, 2D+. Oui, alors il y a une étape sur laquelle il faudra qu'on passe peut-être un peu plus tard. On est en train d'y réfléchir avec le BRGM. C'est qu'en fait, on n'a qu'une surface ondulée. Hein. On n'a pas d'informations sur ce qui est en dessous. Alors, on est en train d'y travailler. Mais là-dessus, je raccourcis. La transparence, ce que j'appelle une séduction troublante. Si vous me permettez la métaphore. Je sais qu'on a eu des discussions, je me rappelle des discussions avec même des prises de position assez carrées là-dessus. La transparence, on n'en veut pas. La transparence, vous voyez à quoi je fais allusion. Maintenant, c'est quelque chose qui est tellement facile à réaliser. La carte géologique, plate, est très difficile à comprendre. On lui met du relief comment ? En la collant sur le modèle numérique de terrain de Google Earth. C'est d'une simplicité enfantine. pour quelqu'un qui n'y connaît rien, on va dire 3 minutes, il sait faire. 5. Et du coup, les élèves voient que là où il y a des roches dures, et le relief. On arrive à mettre en relation les pentes et la tectonique de façon très très nette. Alors simplement, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a collé une image sur une base de données. Et la cohérence des deux, à la limite, la cohérence des deux, elle est fonction de la précision du doigté du bonhomme qui a fait son calage. Et il a fait son calage en fonction des quatre angles de son image. Donc vous voyez que on est quand même vraiment franchement dans le bricolage. Enfin, c'est un bricolage qui est tellement séduisant. Et dans les résultats en termes de compréhension du phénomène et de la géométrie des objets, mérite vraiment qu'on ne le refuse pas. Voilà. Alors, ceci dit, on introduit une illusion dangereuse. Je disais, les trucs sont encore visibles. Alors, je me rappelle que à la conférence à laquelle je faisais allusion, bon, l'INRP n'était pas présent sur la photographie qu'on pouvait voir sur Google. Ce qui permet de se dire qu'effectivement, on n'a pas des images et que toutes les images qui sont assemblées ne sont pas forcément contemporaines. Ça, c'est quand même un sacré problème, parce que ce n'est pas marqué, enfin, ce n'est pas visible a priori. Donc, on a un patchwork de documents qui, dont la cohérence, mérite, qu'on s'y penche. Donc là, le truc est visible. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vous montrerai pas, mais je pourrais le montrer en aparté à d'autres. Il y a quelque chose que j'avais trouvé extrêmement. Ah, je vais peut-être essayer, allez. Si, ouais, ben ça, si, voilà. Voilà, si, ça marche. Une image que j'ai récupérée sur Google, c'est dans la phare. La phare, pour nous, c'est un endroit fabuleux où on peut montrer la naissance d'un océan avec des divergences. Ce qui caractérise la topographie de la phare, ce sont les blocs basculés et donc les marches d'escalier qui sont de chaque côté en symétrie. Avec Google, c'est instantané. Vous tirez un trait. Et il se nappe sur le relief. C'est fabuleux. Les blocs basculés, on les voit. On voit les escarpements de faille. faites ça à la main. Faites faire ça à la main à vos élèves. Vous allez voir combien de temps vous allez passer. Donc on gagne du temps avec des outils numériques, alors qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose de terriblement chronophage. Si on prend des outils simples, on gagne du temps. Alors simplement, le problème, c'est que je me suis amusé à essayer de le faire avec un trait plus ou moins long, tout bêtement. Très court, très long, mais ils sont pas superposables. Pourquoi, je sais pas. J'ai pourtant bien essayé de les faire passer rigoureusement au même endroit, mais entre le très court et le très long, on n'a pas les mêmes escarpements de faille. Alors ça pose quand même un problème. Et ça, on n'a pas d'information, on sait pas, on sait pas. Moi, je suis incapable de dire pourquoi Google Earth me fait ce coup-là. Alors, ce qui fait qu'après, vous vous retrouvez avec des élèves qui ont des profils qui ne se ressemblent pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'ils sont passés plus ou moins au nord ou au sud. Non, non. C'est parce que quand on tire le trait de façon très bizarre, c'est comme si on tendait la corde. Alors ça, c'est quand même un souci. Donc vous voyez, il y a des illusions dont il faut se méfier. Les perversités du numérique, c'est ce réalisme confondant, où on a l'impression d'être sur la réalité et en fait, on n'y est pas vraiment. Alors, on se retrouve confronté donc à une nécessité didactique. Cette première nécessité, elle est tellement classique que je n'insisterai pas dessus. On veut que les élèves comprennent, on veut qu'ils apprennent. On veut qu'ils apprennent et pour qu'ils apprennent, il faut qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses ensemble, comprendre, prendre avec. Et pour comprendre, il faut arriver à mettre des choses en relation. Donc, l'apprentissage d'un concept passe obligatoirement par le raisonnement, c'est-à-dire la mise en relation d'objets et d'idées. Or ça, on peut faire. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. Dès qu'on parle de cartes, de toute manière, on met en relation des choses. Ensuite, c'est un outil fabuleux pour décloisonner, faire travailler les disciplines ensemble. J'y reviendrai pas. Mais je voudrais revenir pour pratiquement terminer sur ça. Comment arriver à dépasser le fait que cet outil n'est pas la réalité. Le meilleur moyen, c'est de faire rentrer les élèves dedans, en leur faisant rajouter des choses dans l'outil,
C'est-à-dire qu'on a une base de données. Faisons donc complémenter la base de données par les élèves. C'est une idée que je lance comme ça. On peut par exemple les emmener sur le terrain, ils prennent des mesures avec un GPS, ils les géoréférencent, et ensuite ils les mettent sur le SIG sur lequel on les fait travailler. Et ils se rendent compte à ce moment-là de ce que c'est que le SIG sur lequel ils travaillent. Mais vous voyez, il ne faut pas abuser. Parce que si on va trop loin, on va retrouver les mêmes angoisses que celles qu'on a eues avec Titus, et qui ont finalement, malheureusement, pratiquement ça a empêché la grève de prendre. Titus, à part quelques pionniers, peu de personnes s'y sont confrontées. Alors, on se retrouve donc, et ça, je termine là-dessus, une obligation de réactivité. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure? On l'attend des élus, on l'attend de nous aussi, parce qu'on est embarqué dans le même courant qui va de plus en plus vite, et la chute du Niagara, elle est tout près. Donc, il faut réagir très vite. Il faut réagir très vite, pourquoi? Parce que les SIG, de toute façon, ils ne nous ont pas attendus. Ils se sont embarqués dans le grand public sous la forme Google Earth. Alors, ce sont des SIG rustiques, on est d'accord, mais ils sont dans la problématique du jour. On a des opportunités techniques, c'est-à-dire que de plus en plus, les machines, on va les avoir. Il ne faut pas dire, on ne peut pas faire de TIS. Si, parce qu'il y a de plus en plus de collèges où les départements ont compris que la salle multimédia, c'était une idée qui finalement a eu ses limites. Et que maintenant, on va livrer des portables dans des chariots qu'on peut donc mettre dans n'importe quelle salle au moment où on en a besoin. C'est la solution. Donc vous pourrez en histoire-géographie sans problème. En SVT, bon, on a déjà un petit peu nos salles techniques, donc on s'en sort un petit peu mieux. Et puis, de ce fait, comme je le disais, un certain nombre d'obstacles didactiques sont devenus abordables. Donc il faut y aller, parce que comme on a la solution, si vous voulez, c'est comme si on avait un vaccin contre un mal et qu'on décide de le garder pour soi. On est coupable. Voilà, mes chers amis, excusez-moi.
Bon, merci. Merci pour avoir ouvert. Merci Guy pour avoir ouvert toutes ces pistes de réflexion. Il y en a beaucoup. Je voudrais simplement en souligner une qui me paraît extrêmement intéressante. Dans ton PowerPoint, c'était indiqué donc visualiser pour comprendre. Et c'est peut-être effectivement l'illusion à laquelle il ne faut pas succomber. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière, c'est effectivement le processus de construction de l'image qui est important. Je crois que l'exemple de Google était très intéressant. Si les élèves n'ont pas derrière une idée du processus qui a permis de comprendre cette image, eh bien on se retrouve face à de grandes difficultés. Alors ça nous ramène ça à nous, nos travaux dans l'équipe à l'INRP, puisque cette création de données, on l'a faite avec nos élèves en l'expérimentant sur le terrain. On est parti sur le terrain avec une centaine d'élèves il y a maintenant quelques mois, et on a géoréférencé ces données dans un logiciel qui s'appelle GeoNote. Vous avez une description sur le poster qui se trouve dans la salle de cette expérimentation. Je n'y reviendrai pas plus que ça aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut que je réponde aussi sur deux points. Bien sûr, cet appel d'offres de la SDTIS nous paraît extrêmement intéressant à l'INRP. Et évidemment, j'espère qu'on sera en mesure d'y répondre. Bien sûr, on n'y répondra pas tout seul. On y répondra avec l'IGN, on y répondra avec le BRGM. On est là ici. On y répondra également avec des enseignants de terrain qui sont susceptibles d'être intéressés par ce type de travail. La deuxième chose, c'est par rapport aux travaux qui peuvent être constitués, qui peuvent être réalisés dans d'autres groupes, eh bien, je veux dire que l'INRP n'a pas vocation à prendre la recherche en éducation en France, mais à être un des partenaires de la recherche en éducation en France. Donc, bien évidemment, nous appelons tous les autres groupes à échanger avec nous. Mais je crois que c'est le cas, puisqu'il y a certains de vous qui sont des représentants de ces groupes académiques ou nationaux qui sont ici. Alors, je crois qu'on serait très frustrés si on n'avait pas la possibilité de poser, je dirais, deux questions à Guy, même si je sais qu'on est en train de dépasser. Je crois que le public serait très frustré, et puis Guy aussi serait très frustré de ne pas pouvoir répondre à deux questions. J'ai compris que tu allais nous quitter dans la journée. J'ai peur de... D'accord. Donc, tu seras présent pendant les échanges qu'on aura en fin d'après-midi vers 15h30.
Oui, 15h30.
Donc, c'est parfait, Guy. Je te remercie pour cette intervention.
Pas de souci.
Bien. Merci à Guy Ménant pour avoir lancé déjà un certain nombre de thématiques très intéressantes qui seront progressivement enrichi au fur et à mesure de la journée.